Rien ne sert de courir, il faut partir. La cigale se trouva fort dépourvue sur un arbre perché. Adieu vos vaches, cochons, petit poisson deviendra flatteur aux dépens de celui qui laissa tomber un fromage. On a souvent besoin d'un plus petit que la grenouille vit un bœuf. Il est bon de parler, etc., etc. Ça vous dit quelque chose?
De vive voix.
Pascal Paradou.
Forcément, ça vous dit quelque chose, La Fontaine et ses fables que tout petit francophone de Paris, Bamako, Kinshasa, Bordeaux ou Phnom Penh a lu, appris ou entendu un jour. Traduite dans le monde entier, inspirée d'auteurs grecs ou latins, adaptée en argot parfois et aujourd'hui en musique grâce à Fred Palem, compositeur, arrangeur, musicien et fondateur du Sacre du Tympan qui est un big bang de jazz. Bonjour Fred Palem.
Bonjour.
Drôle de rencontre quand même que celle d'un musicien du 21e siècle et d'un académicien du 17e. Vous vous êtes rencontrés où? Sur les bancs de l'école?
Ah bah évidemment, le premier contact qu'on a avec les fables de La Fontaine, c'est fatalement sur les bancs de l'école. Mais c'est vrai que je m'en étais éloigné depuis, quoi. Donc il est revenu à mes oreilles quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, qui était au départ l'idée de composer de la musique sur un texte, et un texte qui est déjà sa propre musique intérieure, donc fatalement des textes avec des rimes et une construction très précise. Et donc voilà, quand j'ai cherché quel auteur je pourrais essayer de composer des musiques, La Fontaine c'était un peu une évidence.
Une évidence vraiment?
Ah oui, c'était évident, parce que au départ je pensais peut-être faire quelque chose de rappé et tout, comme ça, très carré, comme le rap, quoi. C'est un truc que j'ai toujours pas réussi à faire, sauf une fois avec MC Solar. Hein. J'avais pris énormément de plaisir. J'aimerais essayer de le refaire plus tard, mais bon, là, c'était trop compliqué à réaliser. Et je m'étais dit, plutôt que de me lancer là-dedans, il faudrait que je trouve des textes qui sont déjà parfaitement écrits, parfaitement construits. Et donc, voilà, quoi. Donc, je me suis retrouvé avec toutes les fables de La Fontaine à disposition, en fait. Donc il n'y avait plus qu'à trier, ça a été un peu long, mais les conteurs et les conteuses m'ont beaucoup aidé.
Oui, parce que vous êtes quand même plus jazz que rap.
Moi je suis musique, on m'a mis dans le jazz au départ parce que j'ai fait une école de jazz, mais je fais tout, moi. Franchement, j'aime toutes les musiques et je les déteste toutes à la fois.
Vous les détestez? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que vous détestez les musiques?
Ah ben, toute musique peut être extrêmement agréable comme extrêmement insupportable, ça dépend qui l'a fait, évidemment. Donc, moi, j'ai pas d'a priori sur la musique en général.
Mais alors, que préférez-vous chez La Fontaine, Fred Palem? Est-ce que ce sont les rimes, ce que vous appelez la musique de la phrase, ou la morale? On a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Bah, les morales, évidemment, ça c'est quelque chose d'évident, mais c'est moi, ce qui me plaisait avant tout, c'était la musicalité des mots. Ça, c'est très important, c'est qu'il fallait qu'il y ait déjà de la musique dans les mots et que ce soit très construit pour pouvoir m'aider à composer derrière. Et donc, du coup, après, il reste plus qu'à écouter la voix du conteur, de la conteuse, écouter un peu le rythme qu'il met dans les mots et puis réfléchir à quel type de musique on pourrait mettre.
En règle générale, vous êtes attentif aux mots, vous aimez les mots, oui. Le vocabulaire, la phrase, la littérature?
Oui. Oui, bah c'est moi, quand je travaille avec des chanteurs, des chanteuses, généralement quand ils m'envoient des maquettes, je leur demande toujours les textes. Et les textes, c'est très très important pour moi, pour pouvoir construire un arrangement par exemple, et puis pour pouvoir aussi rester dans le morceau, parce que moi je rentre toujours dans une chanson par la musique, mais j'y reste par les mots.
Ceci dit, on avait quand même quelques indices de votre amour des mots, car pour baptiser votre formation le Sacre du Tympan, il faut quand même aimer jouer avec les mots.
Oui, ça c'est un petit jeu de mots, c'est un ami qui m'avait suggéré d'appeler mon orchestre au départ le Sacre du Tympan par Pierre Boulkiès et son orchestre intercontemplurien.
En référence au Sacre du Printemps de Stravinsky, et un clin d'œil un peu irrévérencieux à Pierre Boulez quand même.
Oui, non, mais non, moi je suis un grand fan de Pierre Boulez. Donc c'est pas...
Alors, c'est vrai que ça fait 20 ans que vous faites de la musique, que vous faites musique un peu de tout, vous l'avez dit,
bientôt,
vous travaillez
plus de 25.
25 maintenant, vous travaillez autant pour le cinéma, la radio, ou même le Crazy Horse, parce que les filles habillées de lumière du célèbre cabaret de la Rive Droite dansent sur votre musique. Waouh, waouh!
Oui, bah c'est Philippe Découfflet qui avait fait la création pour un show du Crazy Horse qui est resté pendant très longtemps à l'affiche. Et c'est Philippe Découfflet qui m'a appelé, donc j'ai eu beaucoup de chance d'être appelé par ce monsieur que j'admire. Et donc c'est une des plus fortes expériences de ma carrière de musicien, quoi, parce que vraiment là, c'était 6 mois de pur bonheur de travailler à ses côtés.
Mais composer pour des femmes nues, ça fait quoi?
Ça fait rien du tout. Très très honnêtement, hein, ça fait rien du tout. Quand on travaille avec Philippe Découfflet, on est dans le travail, et donc du coup, faut que la musique soit parfaitement calée. On est concentré. C'est seulement une fois que le show roule et que tout est parfaitement millimétré et qu'il n'y a plus qu'à goûter le plat qui a été cuisiné, quoi. comme en cuisine. Une fois qu'il n'y a plus qu'à en profiter du spectacle, que là on commence à se rendre compte qu'en fait, bah, on a une douzaine de femmes nues magnifiques devant soi, quoi. Mais avant, très honnêtement, ça m'a strictement rien fait. J'étais concentré dans mon travail.
Et des femmes magnifiques qui dansent merveilleusement. Et quand vous parliez de spectacle millimétré, tout est millimétré. C'est ça qui fait le charme et la force du Crazy Horse. En tout cas, il y a une touche d'érotisme dans ce nouvel album consacré à La Fontaine. Un morceau qui n'est pas de La Fontaine, c'est Aimon Fouton. Fred Palem est l'invité de RFI pour un album sur les fables de La Fontaine et Plage 3. Voilà que s'immisce ce morceau aux sonorités gainsbourgiennes. Quelle est la morale de cette chanson, Fred Palem?
Il faut toujours arriver à mêler sexe et amour sur un même plan. Voilà.
Et pourquoi cette intrusion de cette chanson dans un album sur La Fontaine?
Parce que je cherchais à faire un album le plus varié possible. Donc voilà, j'essayais des fois de sortir un peu des poèmes avec les animaux. Et donc je suis tombé sur ces épigrammes érotiques. Là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Et je trouvais celui-là très rigolo, quoi. Parce qu'au départ, on était parti sur un autre texte avec Thomas de Pourquery. Et puis finalement, on a changé un petit peu d'avis. Et puis on est parti sur cette idée d'érotisme. Et donc du coup, voilà, on a trouvé ce petit épigramme.
Alors dans cette chanson, l'invité, vous l'avez nommé, le saxophoniste Thomas de Pourquery, quand sur les autres plages de l'album, pour dire La Fontaine, vous avez invité quelques noms bien connus, comme Sandra Nkake, qui est aussi avec nous au téléphone. Bonjour Sandra Nkake.
Bonjour.
Comment avez-vous rencontré La Fontaine, vous ?
Oh bah comme beaucoup de petits élèves français, par l'école.
En France ou au Cameroun ?
Bah les deux. Alors, il se trouve que j'ai été scolarisée et au Cameroun et en France, mais quand j'étais scolarisée au Cameroun, c'était dans une école française. Donc, j'ai baigné dans La Fontaine. Et pour rebondir sur ce que disait Fred tout à l'heure, c'est vrai que la musique de ces fables m'a très vite parlé. En fait, j'avais l'impression que c'était un langage que je connaissais, alors que c'était du vieux français pour moi, mais en même temps, je le comprenais tout à fait.
D'habitude, vous écrivez vos chansons. Est-ce que là, c'était comme si vous les aviez écrites, ou est-ce que c'était très différent ?
C'est une bonne question. Je me suis pas posé la question. Je me suis plutôt posé la question de pourquoi Fred voulait faire ce projet et pourquoi ce poème en particulier. À partir du moment où j'accepte de participer à un projet, que je l'ai écrit ou pas, c'est pareil. J'essaye que ça devienne le mien quelque part. Donc je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai écrit cette fable, loin de là, mais effectivement j'ai essayé de la lire comme si c'était quelque chose que j'aurais pu écrire.
Comment il vous a convaincu, Fred Palem, pour participer à cette aventure ? Parce qu'il y a un petit côté aventure dans ce disque.
Comment il m'a convaincu ? Je ne veux pas dire que c'était pas très dur. Bon, d'abord c'est un ami et c'est un super musicien. Et en fait il m'a convaincu par la musique. Parce que voilà, il a une écriture qui moi me parle et me plaît beaucoup, mais aussi par le propos. Enfin, je pense que c'est un tout.
Vous aviez déjà travaillé ensemble ?
Ah ah, bien sûr. Oui, on a déjà travaillé ensemble et c'est à chaque fois un vrai plaisir parce qu'il est exigeant et en même temps il est drôle.
Est-ce que vous avez... Il rit, il confirme qu'il est drôle, il rit, je l'entends. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la fable lue, Les deux mulets ?
J'ai envie de dire oui, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, Fred, tu
oui.
me confirmes ?
Oui, c'est toi qui l'as choisi, ouais.
Ok, ben voilà.
Et vous l'avez choisi pourquoi ?
Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que j'avais l'impression qu'elle résonnait beaucoup dans nos temps tourmentés. Parce que pour moi, elle parle vraiment de la question des choix qu'on fait dans la vie. Et voilà, on se pose souvent la question aux enfants de quel métier ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais pas quel genre de personne ils veulent être dans la vie. Et je trouve que cette fable, elle correspond bien à ça. C'est-à-dire que quand on fait le choix de l'argent pour l'argent et de la puissance, il y a forcément un moment où on se prend le contre-coup.
Donc pour vous, La Fontaine reste contemporain, résolument contemporain.
Bien sûr. Mais il n'y a qu'à voir la manière dont la crise sanitaire est gérée par le gouvernement, notamment à notre endroit. Voilà, on se sent vraiment traité comme des cigales et comme des moins que rien, quoi. Parce que nos métiers ne sont pas du tout considérés.
Les deux mulets, Fred Palem, Sandra Nkake, on vous écoute.
L'un d'avoine chargée, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit, du danger se retire, et moi, j'y tombe. Je péris. ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'à meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade.
Fred Palem, Sandra Nkake pour cet album consacré aux fables de La Fontaine avec ce titre, cette fable, les deux mulets. Il faut peut-être préciser ce qu'est la gabelle, Sandra Nkake.
Bah, c'est un impôt. D'ailleurs, je pourrais même pas vous dire exactement quel impôt c'est. Faudrait que je vérifie.
Une taxe sur le sel.
Sur le sel, c'est ça, hein, ouais.
Mais donc c'est une fable un peu contre l'impôt, Fred Palem.
Je sais pas vraiment. Faut que je me replonge dedans, en fait.
D'accord.
Comme ça, je pourrais
Joker.
Pas vous dire. C'est bah Joker, oui. je les connais pas tous par cœur encore là, mais oui, peut-être. Évidemment, il doit y avoir ça. Faut demander à quelqu'un qui l'a vraiment étudié en profondeur.
Mais comment avez-vous choisi parmi les 243 fables écrites par La Fontaine ? C'est quand même un peu titanesque cette idée de devoir choisir 13 fables parmi 243.
Bah moi c'était très simple. J'ai demandé aux 14 participantes et participants de choisir eux-mêmes.
Facile.
Donc, comme... bah oui. Donc j'avais déjà fait une sélection moi d'une vingtaine de titres. Donc il y en a que j'ai suggéré. Et donc je leur ai dit voilà, moi j'aime bien ça. Si tu veux prendre autre chose, tu prends autre chose. Donc j'ai pas voulu leur imposer quoi que ce soit. Je les ai laissés vraiment en toute liberté. J'avais déjà fait une petite liste. Et si ça leur plaisait de piocher dedans, ils piochaient dedans. Et s'ils préféraient aller chercher autre chose, ils ont cherché autre chose. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que dans cette sélection, dont vous n'êtes pas totalement le chef d'orchestre, il y a à la fois des fables très connues et puis d'autres qui le sont beaucoup moins et qu'on redécouvre. Par exemple, je n'avais jamais lu ni entendu le lion amoureux ou l'homme et la couleuvre, qui est une fable aussi sur la sottise d'ailleurs.
Ah oui, non mais voilà, l'idée c'était de pas faire forcément le catalogue ultra connu, hein. C'est fallait faire quelque chose d'un peu varié. Moi j'aime bien quand c'est assez varié.
Alors comment s'est organisé le travail ? Qui a commencé ? Le texte ou la musique ? La musique ou le texte ? L'œuf ou la poule ?
Le texte. J'ai commencé à enregistrer toutes les voix d'abord. Et une fois que j'ai eu toutes les voix, en fait, je me suis posé et puis j'ai réfléchi à de la musique pour chaque texte, mais aussi de la musique d'une manière globale. Voilà, pour avoir quelque chose de quand même d'homogène.
Donc toute la question pour vous, compositeur, c'était de travailler sur le rapport entre la voix et la musique que vous composiez.
Oui, c'est ça. Ce qui m'intéressait, c'est de me retrouver un peu dans la position d'un compositeur de musique de film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne des rushs ou on donne un film monté et il faut composer dessus. Et parfois à composer sur des dialogues. Donc j'ai construit la musique un peu comme si on était dans un film, c'est-à-dire essayer de m'imprégner du rythme de la diction, le son des mots et pouvoir trouver un rythme derrière, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. J'avais envie de me retrouver dans cette situation-là, un peu comme un compositeur de musique de film et m'imprégner du rythme. C'est, je repense à un discours d'Orson Welles qui parlait de ça, justement, qui disait que dans un film, ce qui est le plus important, c'est le rythme. Et l'image, c'est totalement secondaire. Et lui, ce qui l'intéressait quand il regarde une scène de répétition avec des acteurs, c'est il ferme les yeux et il écoute le rythme de la diction et le rythme des mots. Et évidemment, le rythme de la musique qui va avec et éventuellement les bruitages. L'image passe en dernier pour lui.
Sandra Nkake, vous avez travaillé comment pour lire, je ne sais pas quel est le verbe employé, cette fable de La Fontaine. Est-ce que c'est un travail d'actrice ou de chanteuse ? Disant cela, je ne sais pas s'il y a une énorme différence d'ailleurs.
C'était un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai essayé d'abord une version, on va dire, très sobre, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que le texte prenne plus de place que la voix, mais en fait, en travaillant avec Fred, il m'a vraiment incité à un peu plus le jouer, en fait, donc quelque part le chanter. Sans le chanter, c'était vraiment pour moi la difficulté. J'avais envie quand même que ce soit... écoutable par un enfant de 5 ans, par exemple, et qui puisse comprendre l'intention de l'histoire.
J'ai lu dans une interview que vous aviez donnée, Sandra Nkake, que vous voulez faire ce métier comme un troubadour. Et là, je me suis dit, bah voilà, vous êtes celle qui porte la parole d'un poète, La Fontaine, comme un troubadour.
Bah oui, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ce métier et ce métier, je me suis très vite posé la question de pourquoi je le faisais et pourquoi en deux mots, évidemment, quelle était l'intention. Bah pour moi, les intentions des créateurs d'art, c'est vraiment essayer de créer des espaces de discussion, de rencontre et de vibration, et la vibration par la musique, mais par les textes aussi, parce que les mots sont importants, la sémantique est importante. Voilà, je suis assez contente et assez fière de pouvoir faire ça aujourd'hui, 2020.
Fred Palem, Sandra Alcaquet disait qu'elle l'avait un peu joué, un peu chanté, que cette fable finalement était dans l'entre-deux. Est-ce qu'il y a une grande différence pour vous, compositeur, entre une voix chantée et une voix parlée ?
Oui, il peut y avoir des différences, bien sûr. Évidemment, il y a une différence sonore. Comment dire ? Là, c'est vrai qu'on est souvent dans ces textes-là, sur un espèce d'entre-deux. C'est pas chanté, mais c'est pas tout à fait parlé complètement non plus. Ça me rappelle un peu, je sais pas si vous voyez les textes de quand Léo Ferré disait des textes sur de la musique. Vous voyez, quand il dit il n'y a plus rien, tous ces trucs-là que j'adore d'ailleurs. Sa voix est pas complètement parlée. C'est quelque chose d'assez subtil. Hein, donc c'est vers ce genre de voix que je voulais aller pour ce disque.
Une voix d'homme, une voix de femme, est-ce que là aussi c'est différent pour un compositeur, la sonorité d'une voix grave ou d'une voix plus aiguë ?
Oui, c'est différent et en même temps c'est un peu la même chose. Non, ce qui est difficile, c'est quand ils sont tous les deux. C'est quand on a une femme, un homme qui chante. Là, c'est tout de suite, ça peut être très compliqué. Parce qu'ils sont pas la même octave déjà l'homme la femme quand ils sont tous les deux. Mais quand on les enregistre séparément, une voix de femme et une voix d'homme, pour moi c'est la même chose.
Alors je n'ai pas compté, mais j'ai l'impression que c'est un album paritaire quand même.
Ah bon ?
Non, je sais pas, j'ai pas compté. Sandra rit, j'entends Sandra rire.
Attendez, oui, je vérifie. C'est ton hésitation à répondre qui me fait rire.
Un album paritaire, peut-être bien. Écoutez, j'en sais rien moi. Peut-être. Alors attendez, il y a 14 titres. Une.
Non, mais on va pas tous les compter en direct. En tout cas, dans de vives voix, on est attentif aux lettres et aux chiffres. Un partout, une femme, un homme. Lisant La Fontaine, il y avait Sandra Alcaquet. Il y a aussi Lucien Jean-Baptiste.
L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau, se laisse achoir, en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie : au secours, je péris ! Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contre-temps, s'avise de le tancer. Ah, le petit babouin ! Voyez, dit-il, où la mise s'assottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin. Que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. Qu'ils ont deux mots et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils me font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Tire-moi de danger, tu feras après ta harangue.
Lucien Jean-Baptiste lisant L'enfant et le maître d'école de Jean de La Fontaine, musique Fred Palem. En écoutant cette fable, alors je ne sais pas si c'est peut-être tout l'environnement sonore et musical que vous créez, mais j'ai l'impression d'entendre plus ou moins qu'une fable un conte, Fred Palem.
Oui, il y a un petit côté comme ça aussi, bien sûr. Oui, parce qu'il y a de la dramaturgie dans la musique. Oui, enfin, c'est vrai que souvent on est plutôt dans le conte plus que dans la fable. Je suis d'accord.
Ça vous frappe aussi, Sandra Nkake?
Oui, vraiment, j'aime cette idée que il n'y a pas que la voix qui puisse raconter l'histoire, mais vraiment tous les instruments, la manière dont ils vont être posés, dont ils vont se répondre les uns les autres, c'est vraiment un super travail.
Est-ce que vous conseilleriez à des maîtres ou des maîtresses d'école de faire écouter ce disque? Est-ce que vous avez pensé aux enfants en enregistrant ce disque? La question vaut pour l'un et pour l'autre, mais puisque vous avez la parole, Sandra Nkake, on commence ou on finit par vous.
Oui, moi bien sûr, mais pas que, j'ai envie de dire. J'aimerais qu'on puisse tous se réapproprier ce patrimoine, en fait. Ça fait partie de nos nombreux bagages, et que je sois petit, très petit, jeune, un peu plus vieux, je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde.
Mais pourquoi vous dites se réapproprier ?
Bah parce que parfois on a l'impression que des versions anciennes de notre langue ne vont pas nous parler, alors que pas du tout.
Où la syntaxe a beau être un peu datée, la langue reste très très précise et puis très musicale, comme le disait Fred Palem. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, Fred Palem?
Ben moi, je pense qu'on pourrait faire écouter cet album aux enfants, hein, surtout qu'en plus il y a des versions instrumentales. Donc s'il y en a qui veulent s'exercer à dire les textes avec les musiques, c'est tout à fait possible.
Ça peut faire un peu karaoké.
Complètement.
En tout cas, cet album vient à point nommé, car en juillet prochain, donc en 21, on célébrera le 400e anniversaire de la naissance de La Fontaine. Est-ce qu'il y avait cette idée aussi d'hommage, Fred Palem?
Absolument pas. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais absolument pas au courant qu'il y avait les 400 ans de La Fontaine l'année prochaine. Je l'ai su... quand on avait fini le disque avant l'été, quoi, c'était vraiment vraiment pas calculé de ma part. C'est hallucinant. Mais bon, après voilà, c'était pas du tout dans un but commercial en tout cas.
C'est une bonne conjonction des astres, de toute façon.
Ah oui, non mais j'hallucine complètement quand on m'a dit que c'était 400 ans. Je dis mais c'est pas vrai.
Vous allez être en tournée pendant toute l'année.
On commence la semaine prochaine.
Ah bah oui, bah
c'est compliqué.
Vous nous annoncez par la même occasion que le confinement est terminé, c'est ça?
Alors voilà, donc le Zénith de Pau, le Zénith de Caen, le Zénith de Paris. On fait 3 semaines dans un théâtre à Paris, théâtre de l'Odéon. Non, oui. Ça, c'est vraiment terrible. Et la Philharmonie pendant tout le mois de janvier.
D'accord.
Voilà.
Bon, donc vous avez un programme de superstar, quasiment de diva.
Il y a que moi qui vais tourner de toute façon cet hiver.
D'accord.
Je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est le président Macron m'a autorisé uniquement moi de tourner.
Vous avez de la chance. Vous êtes prête, Sandra Nkake, pour l'accompagner?
J'espère. Il m'invite avec plaisir.
Donc une tournée pendant tout l'hiver dans tous les théâtres de France et allons-y, peut-être du monde. Est-ce que vous en connaissez d'autres, Sandra Nkake, de fables de La Fontaine, Maître Corbeau sur un arbre, parce que je les ai toutes tronquées au tout début de l'émission. Est-ce que vous savez la suite? Maître Corbeau sur un arbre.
Perché, tenant dans son bec un fromage. C'est ça là?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ok.
Bon, vous êtes prêtes pour un deuxième volume des fables de La Fontaine. Merci beaucoup à tous les deux, Fred Palem, Sandra Nkake. Fred Palem et le Sacre du Tympan, c'est le titre exact, raconte les fables de La Fontaine. Et c'est un disque édité chez Train Fantôme, l'autre distribution. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Yael Co, Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr, sur Pure Radio, l'appli Pure Radio, et sur Facebook. À très vite.